VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 17 décembre 2015. À la une ce soir.
Crise au Burundi, la communauté internationale se mobilise.
Référendum constitutionnel en Centrafrique, les premiers résultats étaient attendus aujourd'hui.
Nous avons fini le traitement des résultats de Bangui et là les résultats de l'intérieur ont commencé à nous parvenir.
Au Niger, le 57e anniversaire de l'indépendance, célébré sur fond de menaces de Boko Haram.
Les agents de sécurité passent la nuit, ils sont là jour et nuit, depuis plusieurs jours, pour veiller à ce que toute personne suspecte soit repérée et éventuellement arrêtée.
Et signature d'un accord entre les États-Unis et Cuba pour la reprise des vols commerciaux réguliers entre les deux pays.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
La communauté internationale se mobilise pour tenter de baisser la tension au Burundi et aider le pays à sortir de la crise de plus en plus meurtrière. Idriss Fall.
Le ministre britannique aux affaires africaines, James Dedridge, était à Bujumbura aujourd'hui. Il a exhorté le gouvernement à engager des négociations pour mettre fin aux violences. Jamal Ben Omar, émissaire de l'ONU, doit lui en battre le poids pour tenter lui aussi de promouvoir un dialogue sans exclusive. Réuni à Genève, le Conseil des droits de l'homme demande l'envoi en urgence d'une mission d'experts indépendants pour enquêter sur les exactions. Le haut commissaire Zaid Raad Al Hussein a même plaidé pour l'implication de la Cour pénale internationale. Le Conseil spécial pour la prévention du génocide, Maître Adama Dien, souligne que la spirale de la violence peut conduire à des crimes atroces. Réuni à Addis Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine assure que l'Afrique ne permettra pas un autre génocide sur son sol. Smaïl Cherghi, commissaire de paix et de sécurité, appelle à la cessation immédiate des tueries au Burundi.
Référendum sur la constitution rwandaise. Les Rwandais de la diaspora votaient dès aujourd'hui dans les représentations diplomatiques. Si elle est approuvée, cette révision du texte suprême permettra au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat et même diriger le pays jusqu'en 2034. Quelques 6,4 millions de Rwandais sont appelés aux urnes demain.
En République centrafricaine, c'est aujourd'hui que l'Agence nationale des élections devait commencer à donner les résultats du référendum de dimanche. Le scrutin avait été marqué par des incidents ayant intimidé les électeurs dans certaines régions. Les précisions de Julius Rufengwadebaba, porte-parole de l'ANE.
Nous avons fini le traitement des résultats de Bangui et là les résultats de l'intérieur ont commencé à nous parvenir parce que vous savez que le pays il est vaste et les moyens de transport ou bien la desserte est assez difficile. Donc grâce à la logistique de la MINUSCA qui nous appuie, les résultats de l'intérieur arrivent. Au niveau du centre de traitement des données de l'Autorité nationale des élections, nous traitons les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent. On va commencer à publier les premiers résultats de la capitale et puis des préfectures alentours, ainsi de suite.
Julius Nguadé-Baba, porte-parole de l'Agence nationale des élections de Centrafrique.
Burkina Faso, les députés de la transition ont voté en plénière deux résolutions de mise en accusation devant la Haute Cour de justice à l'encontre de Bem Maba Noël, ancien ministre de l'économie de Blaise Compaoré, et Sidi Paré, ex-ministre de la sécurité de la transition. De Ouagadougou, le point avec Zoumana Ouenogo.
Des résolutions contre deux anciens ministres. Il s'agit de Bem Maba Noël, ex-ministre de l'économie sous Blaise Compaoré, et Sidi Paré, ex-ministre de la sécurité de la transition. Suivons, avec le député Tanga Félix Ouedraogo, les actes d'accusation.
Les violations intentionnelles des procédures de passation des marchés publics par M. Bem Maba Noël Marie-Lucien ont eu pour conséquence de détourner ou de dissiper la somme de 753 942 098 francs CFA à son profit. Concernant M. Paré Sidi, il lui est reproché sa collaboration avec les putschistes lors du coup d'état militaire de septembre 2015. Considérant les faits qui leur sont reprochés et conformément à l'article 138 alinéa 2 de la Constitution, M. Bem Maba Noël Marie et M. Paré Sidi sont justiciables devant la Haute Cour de justice.
L'ancien ministre de la Sécurité de la Transition, Sidi Paré, est lui aux arrêts, mais l'ex-ministre de l'économie de Blaise Compaoré est lui en fuite. Zoumana Ouenogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, 19 personnes, dont le général Dogbo Blé, un ex-homme fort du régime de Laurent Gbagbo, et Anselme Sekayapo, ancien responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, comparaissaient aujourd'hui à Abidjan devant le tribunal militaire pour assassinat et complicité d'assassinat du général Robert Guéï, ex-chef de la junte en Côte d'Ivoire. John Linden.
Au total, ce sont 24 militaires qui sont poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat sur le général Guéï Robert, sa famille et sa garde rapprochée. 19 sont en détention, 3 en liberté et 2 autres en fuite, avait précisé à l'AFP le procureur militaire Ange Kessy. Surnommé le père Noël en Treilly, Robert Guéï a dirigé la junte militaire installée en Côte d'Ivoire après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président Henri Konan Bédier. Le général Guéï avait été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2000 et chassé du pouvoir par la rue alors qu'il tentait de s'y maintenir. Le général Guéï, âgé de 61 ans, avait été assassiné ainsi que son épouse, des membres de sa famille et de sa garde rapprochée le 19 septembre 2002, jour d'un coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo qui avait entraîné la prise de contrôle du nord et de l'ouest du pays par la rébellion des forces nouvelles.
Le voile islamique intégral interdit en Afrique de l'Ouest. Telle est la décision prise par les chefs d'État membres de la CEDEAO qui espèrent ainsi lutter contre la multiplication des attentats kamikazes commis notamment par des femmes. Les chefs d'État doivent prendre des mesures pour interdire tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne, a déclaré M. Ouédraogo, le président de la commission de la CEDEAO.
C'est aujourd'hui le 5e anniversaire du déclenchement de la révolution en Tunisie. Le 17 décembre 2010, un vendeur ambulant de 26 ans, Mohamed Bouazizi, excédé par les abus du régime, s'immolait par le feu à Sidi Bouzid. Son geste avait provoqué, on se le rappelle, des manifestations qui entraînèrent la destitution du dictateur Ben Ali, point de départ du printemps arabe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Est-ce l'accord tant attendu en Libye? En tout cas, un document a été signé sous l'égide de l'ONU à Sirat, près de Rabat, au Maroc, par les parties libyennes. Un texte déjà contesté, nous dit Nicolas Pinault.
C'est un jour historique pour la Libye, a déclaré l'émissaire de l'ONU Martin Kobler lors de la cérémonie de signature. Des députés et des hommes politiques libyens ont donc signé un accord pour sortir le pays du chaos, et ce, malgré l'objection des deux parlements rivaux qui l'ont rejeté d'avance. L'accord prévoit la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'un conseil présidentiel au début d'une période de transition qui devra s'achever par des élections législatives. Dès hier, le président du Conseil général national, Nouri Abou Sarmein, avait annoncé qu'un tel accord n'avait aucune légitimité. Celui qui n'a pas été mandaté par le CGN pour signer ou paraffer un accord en son nom est et restera sans légitimité, avait-il déclaré depuis Tripoli. M. Abou Sarmein avait rencontré mardi à Malte Aguila Saleh, président du Parlement rival, celui qui est reconnu par la communauté internationale et siégeant à l'Est. C'est une première depuis l'établissement en août 2014 d'un pouvoir parallèle à Tripoli à la suite de la prise de la capitale par une coalition de milices Fajr Libya.
Le gouvernement syrien a annoncé aujourd'hui avoir décidé d'imposer dorénavant des visas aux ressortissants turcs voulant entrer en Syrie, ce qui n'était pas le cas depuis l'accord bilatéral sur l'exemption de visa conclu entre Damas et Ankara en septembre 2009. Le gouvernement syrien accuse la Turquie d'entraîner des combattants de l'opposition, de faciliter leur entrée en Syrie et de soutenir les groupes extrémistes. Malgré les accusations de Damas, le gouvernement turc maintient que les ressortissants syriens peuvent voyager sans visa en Turquie à condition de n'y séjourner que 90 jours au maximum sur une période totale de 6 mois.
Le Conseil constitutionnel français a examiné aujourd'hui la conformité avec la loi fondamentale des assignations à résidence prises dans le cadre de l'état d'urgence après les attentats du 13 novembre. Depuis les attaques djihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et en banlieue, quelques 360 personnes ont été assignées à résidence au motif que leur comportement semblait constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public.
Les États-Unis et Cuba ont signé un accord sur le rétablissement des vols commerciaux réguliers entre les deux pays. Timothée Dunangmaï nous en dit plus.
Des réunions bilatérales se tenaient depuis lundi ici à Washington pour finaliser les détails de cet accord sur lequel les deux pays négocient depuis plusieurs mois. Plusieurs grandes lignes aériennes américaines, par exemple American Airlines, Delta United et JetBlue, se disent intéressés à établir des vols réguliers vers la plus grande île de la Caraïbe. Cet accord intervient un an après la normalisation des relations américano-cubaines. Un an après l'annonce spectaculaire du rapprochement avec les États-Unis, Cuba profite de sa nouvelle image avec un impact notable sur les affaires et le tourisme. Mais pour une grande majorité de Cubains, la situation demeure inchangée. Le président Obama a demandé aujourd'hui aux législateurs américains de lever l'embargo contre Cuba. Le tourisme généralisé est encore impossible à cause de cet embargo.
Pas d'interdiction des frères musulmans au Royaume-Uni. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre David Cameron, tout en précisant que tout lien avec ce groupe pourrait être considéré comme un éventuel signe d'extrémisme.
La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, peut rester à son poste car elle est présumée innocente, a déclaré aujourd'hui à des journalistes le ministre français des Finances, Michel Sapin.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Idrissa Seydoudia.
Le nombre d'emplois créés au Mali est en baisse au troisième trimestre de cette année, révèle la Direction nationale de l'emploi, faisant état de 5 795 postes créés dans le secteur formel contre 6 458 au second trimestre, soit une diminution de 10,27%. Ce léger recul s'explique, selon la Direction nationale de l'emploi, par la baisse des activités économiques due à l'hivernage, rapporte l'agence APA. Par ailleurs, un contrat pour le développement et la réhabilitation du réseau électrique de la Côte d'Ivoire a été signé mercredi entre l'État ivoirien et la Chine pour un coût global d'environ 427 milliards de francs CFA. Les cours du pétrole ont ouvert en hausse timide jeudi, les investisseurs tentant d'épouser l'optimisme des marchés d'actions malgré la forte progression des stocks aux États-Unis et le renforcement du dollar. Martin Shkreli, qui s'était rendu tristement célèbre en septembre pour avoir augmenté fortement le prix d'un médicament, a été arrêté jeudi à New York pour fraude, a annoncé le FBI. Son arrestation n'est toutefois pas liée à l'augmentation de 5000% en septembre du Daraprim, un médicament utilisé contre le paludisme et des co-infections du sida. Il est visé par une enquête concernant des malversations commises alors qu'il dirigeait une autre société.
On remercie Idrissa Seydoudia pour la Minute Éco.
À l'actualité sportive ce soir avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
La nouvelle du jour, José Mourinho a été viré de Chelsea.
Oui, l'entraîneur portugais paye les mauvais résultats des Blues, seulement 16e de Première Ligue avec 9 défaites en 16 matchs. Âgé de 52 ans, José Mourinho était à la tête du club londonien depuis 2013. Il avait remporté le titre de champion d'Angleterre et la Coupe de la Ligue au printemps dernier. Le Portugais avait déjà dirigé les Blues entre 2004 et 2007. Il avait notamment mené à 2 titres de champion en 2005 et 2006.
Scandale à la FIFA, Sepp Blatter a été entendu pendant des heures.
Oui, le président démissionnaire et suspendu de la FIFA a été entendu environ 8 heures ce jeudi devant les juges de son instance à Zurich en Suisse pour s'expliquer notamment sur le paiement controversé d'1,8 million d'euros à Michel Platini en 2011 qui pourrait valoir une radiation à vie aux deux hommes.
Et Blatter a un grand admirateur en Russie, Bagassi.
Oui, en la personne de Vladimir Poutine qui a lancé lors de sa conférence de presse annuelle, je cite, « La contribution de Joseph Blatter dans le domaine humanitaire est colossale. Voilà la personne à qui il faut donner le prix Nobel de la paix. » J'espère que Chirouin est d'accord avec ça.
Au moins avec la première phrase. Mondial des clubs au Japon, la finale, c'est ce dimanche.
Oui, le club argentin de River Plate affrontera lors de cette finale le FC Barcelone, vainqueur ce jeudi du club chinois de Guangzhou, 3-0. De son côté, le TP Mazembe, il faut le rappeler, a perdu contre le CF América pour la 5e place.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burundi.
Et la communauté internationale se mobilise pour éviter le pire au Burundi, Morgane. Ban Ki-moon va envoyer son émissaire qui vient emboîter le pas au ministre britannique des Affaires africaines. Mais les autorités de Bujumbura accusent la Belgique, ancienne puissance coloniale, d'avoir appuyé les auteurs des attaques et en fait officiellement près de 90 morts vendredi. Pour une réaction, Idriss Fall a joint à Bujumbura l'opposant Tassien Simbomana, porte-parole de l'UPRONA NDDJ.
Je n'y crois pas du tout, parce que la Belgique n'a rien à voir avec la violation de l'accord d'Arusha et la constitution qui en est émanation quant à la consécration du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Donc la Belgique, sauf qu'elle aide le Burundi dans plusieurs secteurs, la crise qui secoue notre pays, la Belgique n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est une accusation gratuite. Je ne sais d'ailleurs pas sur quelle base ils font de leurs allégations pour attaquer la Belgique.
L'attaque a fait 90 morts quand même.
Non, ça c'est un bilan officiel, lequel bilan a été d'ailleurs controversé parce que, dans un premier temps, le porte-parole de l'armée avait donné un bilan de 12 morts et un blessé du côté qu'il qualifie d'ennemi et de quelques 5 ou 4 blessés au niveau de la police et de l'armée. Ce n'est qu'après, le système en place a vu qu'il ne pouvait pas justifier comment des centaines de gens ont été tués, alors que le porte-parole avait précisé que l'attaque avait été maîtrisée par l'armée. Mais comme les massacres ont été perpétrés longtemps après l'attaque de 10 camps, les chiffres ont été revus à la hausse pour essayer de trouver de semblants de justifications qui n'en sont pas une.
Et qu'est-ce que c'est que vivre à Bujumbura aujourd'hui?
À Bujumbura, c'est une vie vraiment très précaire parce que la population vit dans une peur bleue parce que à longueur de journée, la police passe dans tous les quartiers et ramasse des jeunes. La plupart sont retrouvés après quelques temps ayant été tués. Vous comprenez que c'est une vie vraiment très, très aléatoire à Bujumbura.
Et quelle solution pour sortir de la crise, selon vous?
La solution la moins coûteuse, naturellement, c'est de se mettre à la table des négociations et parler sans faux fuyant des modalités pour sortir le Burundi du gouffre dans lequel le troisième mandat l'a plongé. Mais malheureusement, de par les discours incendiaires qui sont prononcés par les hommes du parti CNDD-FDD, de par l'entêtement qui caractérise le système en place, vous voyez vous-même qu'il n'y a aucune volonté de négocier alors que c'est la voie obligée pour trouver la solution au problème. Donc, en définitive, il faut que tout le monde, tous les partenaires du Burundi fassent tout pour obliger Pierre Nkurunziza à accepter les négociations. Ce que nous considérons comme une voie qui peut limiter les dégâts en termes de vie humaine que nous continuons d'enregistrer ces derniers jours.
C'était Tassien Simbomana, porte-parole de l'UPRONA NDDJ.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
L'intensification des opérations militaires contre les islamistes de Boko Haram au Nigeria continue d'envoyer un flux constant de réfugiés au Cameroun voisin. Notre correspondant Moki Edwin Kinzeka a récemment accompagné une équipe de responsables onusiens et de diplomates dans un camp de réfugiés. Son reportage est présenté par Félix Epassi Zembro.
Aboubakar Salifou vient juste d'arriver au camp de Minawao dans l'extrême nord camerounais. Il explique qu'il a précipitamment quitté la localité nigériane de Banki en compagnie de sa femme et de ses 4 enfants. Les insurgés venaient de piller du bétail et des magasins lorsque les troupes nigérianes et camerounaises sont arrivées sur les lieux, a indiqué ce père de famille âgé de 62 ans. Depuis plus de 2 mois, 800 personnes en moyenne arrivent chaque semaine au camp de Minowa, a fait savoir le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mununa Futu. Selon lui, le camp compte maintenant 55 000 personnes auxquels il faut ajouter la cinquantaine de nourrissons qui y naissent chaque mois. La crise humanitaire dans l'extrême nord est très préoccupante. Et les personnes déplacées et les réfugiés constituent un défi pour le gouvernement et ses partenaires. L'insurrection déclenchée au Nigeria par Boko Haram il y a 6 ans s'est maintenant étendue au Cameroun, au Niger et au Tchad. Les militants ont incendié de nombreux villages, massacrant les habitants par centaines. Les estimations onusiennes chiffrent le bilan à quelques 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés et de réfugiés. Ce mois-ci, l'armée camerounaise s'est jointe à celle du Nigeria pour de nouvelles opérations contre les djihadistes autour du lac Tchad et dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria. Pour appuyer la lutte contre Boko Haram, les États-Unis ont envoyé des conseillers dans la région et, la semaine dernière, des blindés, des équipements tactiques et des groupes électrogènes. L'ambassadeur américain au Cameroun, Michael Oza, faisait partie de la délégation qui a visité le camp de Minawao. Nous espérons accroître nos efforts en vue d'éliminer Boko Haram de manière permanente afin que les Nigérians puissent retourner chez eux, que nous puissions relancer l'économie pour que les gens retournent à ce qu'ils sont censés faire, à savoir s'occuper de leur famille et bâtir un avenir radieux. Les réfugiés ont entonné un chant au départ des visiteurs. Selon les travailleurs humanitaires de Minawao, la population croissante du camp a un besoin urgent d'installations sanitaires et de vivres.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Niger, c'est demain le 57e anniversaire de la proclamation de la République. Cette fête, célébrée depuis quelques années de façon tournante dans les régions, se déroule à Maradi cette année. C'est une ville frontalière avec le Nigeria. En dépit des craintes sécuritaires, les manifestations sont maintenues. Le président Mahamadou Issoufou devait prononcer un discours dès ce soir. Sur place, Abdul Razak Idrissa.
Les festivités lancées depuis le 13 décembre regroupent près de 5000 participants. D'où la question de la sécurité dans une ville située seulement à 25 km de la frontière avec l'état de Kano au Nigeria où sévit la secte islamiste Boko Haram. Les habitants et les participants ne semblent pourtant pas être inquiets.
Depuis même l'avènement de Boko Haram, plus de 6 ans de cela, jamais il n'y a eu aucun acte suspect dans cette ville de Maradi. Donc, moi, de mon point de vue, il n'y a pas un problème sécuritaire. Seulement, ce sont les autorités qui veulent perdre ça, comme il y a un problème sécuritaire, ils embêtent un peu les gens.
Qu'est-ce qu'il y a d'intensé d'escrocs?
Il y a tellement de sécurité, à tel point qu'ils en sont même inquiets. Vu le déploiement des forces de l'ordre sur les différents endroits qui vont abriter les différentes manifestations et les différentes fouilles qui sont opérées, les agents de sécurité passent la nuit, ils sont là jour et nuit, depuis plusieurs jours pour veiller à ce que toute personne suspecte soit repérée et éventuellement arrêtée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude.
Pas de soucis également du côté des organisateurs, car là encore où est le principal.
Le risque zéro n'existe pas. Mais nous prenons des dispositions. Nous savons que cette région n'a pas vécu des attaques de Boko Haram et nous continuons à espérer que la région de Maradi continuera à être préservée des attaques de la secte Boko Haram. C'est des manifestations diverses. Il y en a qui se déroulent à 10 km d'ici, à l'hippodrome, la Fantasia. Il y en a qui se déroulent au Grand Marché. Il y en a qui se déroulent à Madarumfa, à 30 km. Il y en a qui se déroulent à la tribune, au plateau, à côté du gouvernorat. Donc, ce n'est pas à un endroit concentré où il est plus facile d'atteindre des cibles.
Il n'y a donc pas de peur.
Nous n'avons pas de soucis.
Un important dispositif militaire et policier est mis en place dans la ville de Maradi et à ses alentours. Le clou des activités sera le 18 décembre prochain, jour anniversaire de la proclamation de la République du Niger, avec un important défilé militaire devant le président de la République, Issoufou Mahamadou. Abdelrazak Idrissa à Maradi pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Le chômage continue d'être la principale préoccupation des Africains, selon les résultats du rapport Afrobaromètre 2015, publié ce jeudi. Suivent la santé, l'éducation, les infrastructures et la pauvreté. Hervé Akinocho, directeur du Centre de recherche et de sondage d'opinion basé à Lomé et partenaire national d'Afrobaromètre, explique au micro de Modibo Dembélé les principaux résultats de l'enquête menée dans 32 pays africains.
À travers les 32 pays où les interviews ont été déjà conduites, il ressort que le chômage et la santé sont les deux principaux problèmes que les Africains voudraient que leur gouvernement prenne le devant pour régler au plus tôt. Et au-delà de cela, il y a également que si les gouvernements devaient accroître leur investissement dans des secteurs, il devrait le faire en priorité vers l'éducation et la santé.
Et comment concilier la quête des populations, à savoir la lutte contre le chômage, avec les priorités étatiques comme l'amélioration de l'éducation?
Actuellement, les États devront au fait faire un arbitrage. Les populations ont un certain nombre de besoins et face à ces besoins, les États devraient ajuster leur politique pour pouvoir permettre à ces populations-là d'avoir le meilleur. Donc, l'éducation, dans sa globalité, vise à doter les individus de tout ce qui est bagage pour pouvoir être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Et cela est également l'une des voies pour pouvoir résorber le chômage. Donc, il faudrait que les gouvernements mettent en place donc toutes les politiques, pas seulement au niveau éducationnel, mais également de mise en place de structures industrielles, de structures de tertiaire pour résorber une partie du chômage qui sévit dans la jeunesse, dans la population africaine.
Et quel intérêt revêt ces enquêtes pour la société civile, les acteurs politiques et gouvernementaux des pays concernés?
Aujourd'hui, ces chiffres permettent de savoir aux gouvernements, aux acteurs de la société civile, aux activistes, au monde de la recherche, à tout le monde, quelles sont les priorités des populations. Et à partir de là, ils pourront orienter pour les activistes leur plaidoyer, pour les gouvernements leur politique et pour le monde académique pouvoir creuser un peu plus, pour voir pourquoi dans tel pays c'est telle chose ou telle autre, quelles sont les politiques possible pour permettre à l'Afrique d'avancer ou tel pays d'avancer. Donc je crois que c'est en fait un champ ouvert pour tout un chacun pour pouvoir permettre d'aller plus loin dans la mise en œuvre des ODD à venir.
Hervé Akinocho au micro de Modibo Dembélé.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot. À la console, Zainab Abdelrahman. Présentation chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.